ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Good morning tour. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tours. Il est 7h17, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette heure d'émission ce vendredi 22 novembre. Ce matin, nous débuterons par les informations de la semaine présentées par Tomine Dupont, puis Alia Trabelsi nous parlera des violences conjugales dans la chronique Société. La revue de presse de la semaine, elle, sera présentée par Jules Frécon. Place ensuite un reportage de Gabriel Ziyar sur la délocalisation d'un journal télévisé. Nous allons ensuite élargir à l'international. Colin Debroniak-Cohen nous parlera des États-Unis et du lancement des premiers missiles longue portée en Ukraine. Puis nous retrouverons une interview de Jacob Santaro, spécialiste des conflits socio-environnementaux en Colombie, avec des propos recueillis par Lucie Feuillolet et Tomine Dupont. Après une pause musicale, on retrouvera Tomine Dupont pour le second flash info. Nous écouterons ensuite un reportage signé Victoire Renoir de Winter sur les barrages du Cher. Pour la chronique culture, Lucie Feuillolet reviendra sur la sortie du film The Substance, puis un peu de basket avec Julian Schneider qui consacrera sa chronique à l'actualité de la NBA. Angelina Richard conclura cette émission avec un billet d'humeur sur le temps. Vous écoutez bien Good Morning Tour, 99.5 FM, il est 7h18, tout de suite les informations.
La Cour pénale internationale CPI a décidé ce jeudi d'émettre des mandats d'arrêt. L'un contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, l'autre contre Mohamed Def, le chef de la branche armée du Hamas. Cette décision intervient 5 mois après que le procureur de la CPI, Karim Khan, ait demandé ses mandats. Dans ses communiqués, la juridiction internationale évoque notamment des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Il appartient désormais aux 124 États membres de la CPI de décider d'exécuter ou non ces mandats. Retour en France. Moins d'un an après une mobilisation historique des agriculteurs, les syndicats agricoles ont appelé leurs troupes à manifester à nouveau. Depuis lundi, de nombreux points de manifestation et de blocage ont été recensés, notamment dans le sud-ouest de la France. Le but, montrer leur opposition à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur, comme le Brésil ou l'Argentine. Les agriculteurs sont de nouveau attendus aujourd'hui en France. Côté politique, la gauche et l'extrême droite menacent de censurer le gouvernement Barnier. C'est le vote du budget 2025 qui est directement visé. Marine Le Pen a déclaré voter une motion de censure, je la cite, « si le pouvoir d'achat des Français est amputé par le budget ». En effet, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé plusieurs hausses d'impôts. Les leaders du nouveau Front populaire ont quant à eux assuré dans une tribune commune publiée dans Le Monde qu'ils déposeront une motion de censure en cas de recours au 49-3. Un procès attendu s'est déroulé cette semaine, celui de Pierre Palmade. Pour rappel, en février 2023, il avait pris le volant sous stupéfiants et percuté une voiture, faisant 3 blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son fœtus. L'ancienne humoriste est donc condamnée à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour blessures involontaires aggravées. Une actualité tourangelle maintenant, après un petit épisode de neige à Tours lié à la tempête Caetano qui a touché la France. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du premier marché Noël Tourangeau, le village gourmand. Rendez-vous place Anatole France pour venir déguster des gourmandises de Noël montées dans la grande roue ou patinées. Il faudra attendre encore une petite semaine pour l'illumination du sapin de Noël face à la mairie. L'événement aura lieu le samedi 30 novembre à 19h30, suivi d'autres festivités.
Merci Tomine Dupont pour le résumé de l'actualité de la semaine. Il est 7h20, l'heure de la chronique Société. Le 25 novembre prochain aura lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Instaurée en 1999 par l'ONU, la lutte reste d'actualité. Alia Trabelsi fait le bilan des événements.
122. C'est le nombre de femmes décédées en raison de leur genre depuis le début de l'année 2024 en France. Parmi elles, on dénombre pour le moment 88 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Des causes de coups, d'armes à feu, d'armes blanches ou encore d'incitation au suicide. Ces chiffres alarmants, annoncés l'année dernière par le ministère de l'Intérieur, démontrent une hausse de 10% des violences depuis l'année 2022. C'est pourquoi, samedi et lundi prochain, se dérouleront en métropole et outre-mer une cinquantaine de manifestations à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences de genre. De nombreux syndicats, ainsi que plusieurs associations féministes, ont appelé à rejoindre les cortèges. Les revendications sont claires, la mise en place d'un budget minimal de 2,6 milliards d'euros à la hauteur de l'urgence nationale. L'idée, par exemple, c'est de prévenir, accompagner et soutenir les 271 000 victimes de violences conjugales, constituées à 85% par des femmes. Et quand je parle de violences conjugales, je n'aborde évidemment pas que le problème des coups. Et prenez mon « que » pour un euphémisme. On parle aussi de violences verbales, harcèlement moral, menaces, atteintes à la vie privée et violences sexuelles. Cette animosité, une femme sur 10 y est confrontée au cours de sa vie, tant bien qu'elle le reste en vie. Vous n'avez donc qu'à regarder autour de vous pour prendre conscience de l'ampleur de ce schéma. Quand j'ai eu connaissance de ce chiffre, je n'ai pas pu m'empêcher de le projeter sur mes amis, mes camarades de primaire, de collège, de lycée, et aujourd'hui, mes camarades de radio. Sur ces nombreuses femmes que j'ai pu croiser au cours de ma vie, il est statistiquement impossible que l'une d'entre elles n'en soit pas victime, aujourd'hui ou demain. Leur âge, leur origine ethnique ou même sociale n'ont plus la moindre importance quand il est question de violence. La seule chose que révèlent les experts, c'est un cycle. 4 étapes. Pour commencer, l'escalade de la tension. Puis, une explosion de la violence, sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, suivie de la justification. Pour embrayer, ensuite, et pour finir, sur la lune de miel, autrement dit, la reconquête du bourreau. Un schéma qui s'inscrit dans un contexte de violence patriarcale systémique au croisement d'autres oppressions. Alors, si vous observez une quelconque situation s'inscrivant de près ou de loin dans ce pattern, l'important c'est avant tout d'écouter sans jugement. Mais surtout d'agir. Car attendre d'être sûr, c'est prendre le risque de perdre les femmes qui nous entourent.
Merci Alia Trabelsi pour cette chronique. Et pour rappel, si vous êtes témoin ou victime de violences sexistes et sexuelles, appelez le numéro de téléphone 3919, accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Vous écoutez toujours Good Morning Tour, il est 7h23, l'heure de revenir sur certains des faits marquants de la semaine vus par diverses rédactions. C'est l'heure de la revue de presse présentée par Jules Frécon. Alors que les syndicats agricoles sont mobilisés contre le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, Jules, vous commencez cette revue de presse en nous parlant d'une rencontre.
Une rencontre que narre Agathe Baudouin pour le journal Le Monde cette semaine. À Bezous, commune de 2000 habitants située dans le Gard, la journaliste retrouve Christophe Piquet, un homme jovial et souriant. Mais derrière son sourire, Christophe, agriculteur, cache un découragement. Le viticulteur et éleveur commence à perdre espoir. Près d'un an après les protestations de janvier, rien n'a changé pour lui. Les mesures de simplification n'ont pas vu le jour, se désole-t-il. En bio, nous n'avons obtenu aucune aide. Beaucoup de personnes sont désespérées et ne croient plus au mouvement. J'ai un copain qui a vendu ses terres et abandonné son métier, conclut Christophe. Lui n'a pas pris de vacances depuis 2022. Et à 50 ans, c'est encore sa mère qui l'aide à payer ses repas.
Mercredi, c'était le 1000e jour du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ouest France en faisait sa une.
Dans le journal, on peut lire des témoignages recueillis par Emmanuel Chaz, notamment ceux de Vania et Lisa, un frère et une sœur qui ont perdu leur père au front le 18 octobre 2024. Dans son témoignage, Vania, 14 ans, adresse un message pour les enfants français. Appréciez chaque petite chose, même l'eau, le chauffage, parce que rien dans la vie n'est acquis pour toujours. Alors que Joe Biden a autorisé cette semaine l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles balistiques américains, le quotidien indique que cette autorisation permettra de toucher des dépôts de munitions, de carburant, des lignes ferroviaires ou encore des aérodromes militaires. Pour autant, Libération relativise cette décision. C'est trop tard et trop peu, écrit Laurence Defranou dans le journal du 19 novembre. Seule la région de Koursk serait concernée, soit un confetti de quelques centaines de kilomètres carrés que les troupes ukrainiennes contrôlent, analyse la journaliste du quotidien national. Mais comme le fait remarquer Ouest France, le choix de Joe Biden pourrait convaincre la France et le Royaume-Uni de faire le même à l'avenir.
Cette semaine avait également lieu le procès de Pierre Palmade au tribunal correctionnel de Melun.
Le verdict est tombé ce mercredi, 5 ans de prison dont 2 fermes pour l'ancien humoriste. Le 10 février 2023, il avait percuté la voiture d'une famille. Résultat, 3 blessés graves, dont une femme enceinte d'un bébé prêt à naître. Il mourra à l'hôpital. Lors de son jugement, Pierre Palmade écoute sa peine sans émotion, comme il l'a fait durant tout le procès, relève Sébastien Blondet et Denis Courtine pour Le Parisien. Les deux journalistes notent toutefois ces mots que le désormais condamné a prononcés. « Si j'ai une seule pensée, c'est pour les victimes, qu'elles puissent se reconstruire. Je le souhaite du plus profond de mon cœur. » Au moment du délibéré, les victimes esquissent seulement un sourire. Un bras en écharpe et l'autre tenant une béquille, le conducteur de la voiture percutée indique à la barre ne plus pouvoir sortir, ni jouer au foot avec ses enfants. Mila, la femme enceinte au moment de l'accident, est-elle aussi marquée par le drame? Il y a 2 mois, elle est devenue mère d'une petite fille, mais elle n'est pas parvenue à s'attacher à elle pendant sa grossesse, comme pour se préserver du drame qu'elle a connu en février 2023, écrivent les journalistes du Parisien.
Pour finir, Jules, vous nous parlez d'une actualité que vous, auditeurs, avez probablement remarquée en sortant de chez vous cette semaine, la neige.
Elle est tombée hier sur une partie de la France, de la Normandie à l'Alsace en passant par la région parisienne. Les épisodes neigeux, on le sait, c'est l'occasion pour les journaux télévisés de tourner des reportages avec des habitants et de belles images. Mais les quotidiens régionaux se sont aussi emparés du sujet. Les dernières nouvelles d'Alsace ont par exemple noté que les flocons avaient répandu une ambiance festive à la tombée de la nuit près du marché de Noël de Mulhouse. La neige est également tombée à Avranches, en Normandie. Un jardinier qu'a rencontré Ouest France témoigne. Dans les années 90, je me souviens de la neige qui tenait une semaine. Une chute comme ça n'était pas arrivé depuis des années. De quoi ravir les enfants de la ville. Mais il est bon de rappeler que les flocons ne font pas que des heureux. Plusieurs accidents ont été constatés à la suite de ces chutes de neige. 10 000 foyers étaient encore privés d'électricité hier en Bretagne, comme le relevait le Télégramme. Et c'est sans parler des personnes sans abri, pour qui la neige, le froid et le vent amenés par la tempête Caetano n'ont rien de positif.
Merci Jules Frécon pour ce tour d'horizon des actualités de la semaine. On reste dans le thème des médias. Gabriel Ziard s'est rendu à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, pour réaliser un reportage sur la délocalisation d'un journal télévisé.
Il est 8h sur le marché de Vendôme, lorsque les premières caméras prennent place. Dans les halls ce jour-là, un groupe de techniciens, emmitouflés de leur veste floquée France TV, commence à préparer le plateau. À l'occasion du 13h chez vous, le JT de France 2 a pris place dans le Loir-et-Cher. Pour Julien Bugier, journaliste et présentateur du JT, ce journal avait une saveur particulière.
C'était un moment génial parce que bon, moi je viens du Loir-et-Cher, je suis de Blois, c'est à 30 minutes à peu près d'ici. Et c'est vrai qu'on on a l'habitude quand on fait ces délocs du 13h de venir à la rencontre des Français, des habitants et de s'ancrer dans un territoire où il y a une problématique locale mais qui résonne aussi au niveau national. Et donc c'était le bonheur de partager ces histoires-là, des histoires aussi d'agriculteurs qui trouvent des solutions, de producteurs et puis l'accueil des gens qui sont là, qui sont nombreux et qui sont contents au fond qu'on vienne s'intéresser à eux. Voilà, c'est aussi ça le sens de la démarche.
Une démarche qui vise aussi à renouer avec un public qui ne prend plus le temps de s'informer. La faute, des sujets d'actualité perçus comme trop lourds ou éloignés des préoccupations quotidiennes. C'est en tout cas ce que pense Valérie Hortel, journaliste à la rubrique « Une idée pour la France ».
En fait, nous, journalistes, on a plus l'habitude de s'intéresser forcément à ce qui ne va pas. Et finalement, trouver ce qui va bien, faut aller le chercher un petit peu plus loin.
Pour ça, la journaliste part chaque semaine en région à la rencontre de ses commerçants, artisans ou simples citoyens pour faire découvrir de nouvelles initiatives. Un journalisme de solution largement assumé par la chaîne.
Et oui, c'est un moment joyeux, quoi, en fait, où on reprend un peu espoir, on se dit, OK, il y a des choses qui vont mal, mais on a de la ressource, il se fait quand même plein de choses dans les territoires, et ça, c'est quand même sympa, ça met du baume au cœur.
Un sentiment largement partagé par les spectateurs, venus en nombre pour assister à cet événement.
Alors effectivement, je trouve ça super bien que le journal de France 2 soit délocalisé sur Vendôme. Déjà, ça apprendra aux Parisiens que Vendôme, ce n'est pas qu'une place, c'est une petite ville de province où il fait super bon vivre. Et puis, c'est vraiment sympa parce que ça met en valeur les gens du cru, ça met en valeur le terroir. L'information nationale, on en a beaucoup, on en a plein, on en a des fois trop. Et je pense que les gens aiment aussi avoir des choses qui se rapprochent de chez eux, qui connaissent mieux et qui leur permettent de se recentrer en fait sur l'endroit où ils vivent. Voilà.
Un reportage signé Gabriel Ziard. Il est 7h30 sur Good Morning Tour. On se retrouve juste après une petite coupure musicale. On écoute tout de suite Take Me Out de Franz Ferdinand. Me Out avec Franz Ferdinand. Il est 7h33 et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus. Nous ouvrons maintenant notre page internationale avec quelques brèves d'actualité. En Corée du Nord, le 19 novembre 2024, le leader nord-coréen Kim Jong-un a rencontré Alexandre Kozlov, ministre russe des ressources naturelles, à Pyongyang. Cette rencontre coïncide avec l'arrivée d'une délégation d'une académie militaire russe dans la capitale nord-coréenne, signalant un renforcement des relations entre les deux pays. Asie. À New Delhi, la pollution de l'air atteint des niveaux alarmants. Le 18 novembre 2024, la pollution atmosphérique à New Delhi a dépassé de plus de 60 fois les normes recommandées par l'OMS. Chaque hiver, la capitale indienne subit des pics de pollution dus aux émissions industrielles, au trafic routier intense et aux brûlis agricoles saisonniers. On prend désormais la direction de l'Afrique. Le 18 novembre 2024, les électeurs du Gabon ont approuvé massivement, avec près de 92% de oui, une nouvelle constitution proposée par le régime militaire du général Brice Oligui Nguema. Ce texte soumis à référendum prévoit notamment la tenue d'une élection présidentielle en août 2025. Au Nigeria maintenant, Alice Loksha, infirmière de l'UNICEF, a retrouvé la liberté après 6 années de captivité aux mains de djihadistes dans le nord-est du pays. Enlevée le 1er mars 2018 lors d'une attaque à Ran par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, elle a subi des mariages forcés et donné naissance sous la contrainte pendant sa captivité. On se dirige maintenant en Amérique avec une première chronique de Colin Dobrunia-Cohen. Nouveau revirement dans la guerre en Ukraine, les États-Unis autorisent Kiev à utiliser des missiles longue portée contre la Russie. Qu'en est-il, Colin ?
En effet, dimanche 17 novembre, un haut responsable américain a annoncé une décision importante. 1000 jours après l'offensive russe, Washington a donné son feu vert à l'Ukraine pour recourir à des missiles longue portée contre la Russie. Une décision qui fait suite à une demande de longue date de la part de Kiev, mais qui avait été refusée par plusieurs pays par crainte d'une escalade avec Moscou. Vladimir Poutine avait d'ailleurs alerté à ce sujet et déclaré que cela signifierait une entrée en guerre des pays de l'OTAN contre la Russie. Avec la levée de ce verrou stratégique, l'Ukraine pourra donc riposter et frapper la Russie en profondeur à l'aide de missiles qui peuvent atteindre une cible à près de 300 km. L'objectif est de repousser la contre-attaque russe dans la région de Koursk située à l'ouest de la Russie. Cependant, leur utilisation devrait être validée par Washington au cas par cas. À la suite de cette nouvelle, Moscou a réagi. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a notamment critiqué la décision de Biden qui ne servait qu'à jeter de l'huile sur le feu.
Mais pourquoi maintenant ?
D'abord, c'est une décision qui survient lors d'un bombardement massif de la part de la Russie. Dimanche et lundi, plus de 120 missiles ont été envoyés sur l'Ukraine, provoquant des dizaines de morts et détruit de nombreuses infrastructures civiles. Ensuite, cette décision intervient 12 jours après l'élection présidentielle américaine qui a vu la victoire être remportée par Donald Trump. L'actuel président démocrate Joe Biden pourrait essayer de prendre les devants au niveau géopolitique avant la fin de son mandat. En effet, les intentions de Trump sur la guerre en Ukraine restent floues, promettant seulement de la régler en un temps record. Dernièrement, le récent soutien de la Corée du Nord à Poutine pourrait être une cause de ce choix. Depuis l'entente entre Moscou et Pyongyang, plus de 10 000 soldats nord-coréens ont rejoint le front russe et se battent contre l'Ukraine.
Et depuis cette annonce, Kiev a commencé les envois de missiles.
Exactement. L'Ukraine a d'ores et déjà mené ses premières frappes dans la nuit de lundi à mardi. Un arsenal militaire russe situé à 340 km de Moscou a notamment été touché. Si la décision des États-Unis a accéléré les aides internationales, notamment venant des pays de l'OTAN, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a promis une réponse appropriée au tir qui marque une nouvelle phase du conflit. D'un côté, le Royaume-Uni a donné mercredi son accord à l'usage de missiles longue portée britanniques, tandis que les États-Unis s'apprêtent à livrer un paquet d'aides militaires de 275 millions de dollars et un stock de mines antipersonnelles à Kiev. Du côté russe, Vladimir Poutine a annoncé à la télévision ce jeudi le déploiement d'un nouveau missile balistique touchant une usine de la ville de Dnipro et n'exclut pas de frapper les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine.
Merci Colin Dobrunia-Cohen pour cet éclairage. On se focalise maintenant sur la Colombie avec Jacob Santaro, spécialiste des conflits socio-environnementaux dans ce pays d'Amérique latine. La Colombie reste à ce jour le pays le plus dangereux pour les défenseurs de l'environnement. Une interview signée Tomine Dupont et Lucie Feuillolet.
D'être optimiste quand on voit le panorama des conflits en ce moment dans le monde entier et dans un contexte de forte instabilité géopolitique, ces conflits-là tendent à s'accentuer ou à s'aggraver.
Du coup, quelles sont les spécificités de la Colombie sur ces conflits environnementaux, justement ?
Oui, je dirais qu'il y a des spécificités à la Colombie qui sont liées notamment à la présence des groupes armés qui contrôlent les territoires dans une situation de faible présence de l'État et où l'extraction des minerais, par exemple, ou le trafic des drogues et en général les dynamiques des violences de la guerre sont toutes mêlées. La relation entre guerre, violence et dépossession, accaparement des terres, déplacement forcé pour le développement du capitalisme est particulièrement accentuée.
Cette situation est visible depuis la mise en place de la Division internationale du travail. Dans ce contexte de mondialisation, quel est l'impact de la montée de l'extrême droite en Amérique latine sur les conflits environnementaux en Colombie ?
Cet impact a à voir notamment avec le mépris que certains de ces gouvernements affichent vers les mouvements sociaux, comme quoi ils seraient contraires au développement économique qui est considéré comme un bien social. Il est aussi étonnant de voir que des gouvernements progressistes, par exemple le gouvernement actuel en Colombie est un gouvernement progressiste de gauche ou de centre-gauche, et les conflits environnementaux ont augmenté, paradoxalement. Donc c'est pas que l'extrême droite qui est responsable ou qui a des impacts sur ça. C'est une structure économique qui dépasse parfois l'action étatique. La Colombie est l'un des pays où la défense de l'environnement est le plus meurtrière. La Colombie a un taux très très élevé d'assassinat des leaders sociaux et environnementaux. Il faut dire qu'on ne parle pas juste de la protection de la nature. On parle aussi des droits culturels, des droits sociaux, d'un attachement différent au territoire. Donc c'est une conception de la nature et de l'écologie en général qui n'est pas forcément la même qu'on pourrait avoir en Europe, par exemple.
Merci beaucoup Lucie et Tomine. Il est 7h40 sur Good Morning Tour, l'heure de conclure cette page internationale en musique. On écoute tout de suite Come With Me Now de Congos.
Come with me now. Far away, I heard him say. Come with me now. Don't delay.
Come With Him Now de Kongos. Vous écoutez la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Il est 7h44, l'heure du second flash info de Tomine.
À la une de l'actualité, la Cour pénale internationale CPI a décidé ce jeudi d'émettre des mandats d'arrêt. L'un contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, l'autre contre Mohamed Def, le chef de la branche armée du Hamas. Cette décision intervient 5 mois après que le procureur de la CPI, Karim Khan, ait demandé ses mandats. Dans ses communiqués, la juridiction internationale évoque notamment des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Il appartient désormais aux 124 États membres de la CPI de décider d'exécuter ou non ces mandats. Retour en France. Moins d'un an après une mobilisation historique des agriculteurs, les syndicats agricoles ont appelé leurs troupes à manifester à nouveau. Depuis lundi, de nombreux points de manifestation et de blocage ont été recensés, notamment dans le sud-ouest de la France. Le but, montrer leur opposition à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur, comme le Brésil ou l'Argentine. Les agriculteurs sont de nouveau attendus aujourd'hui en France. Côté politique, la gauche et l'extrême droite menacent de censurer le gouvernement Barnier. C'est le vote du budget de 2025 qui est directement visé. Marine Le Pen a déclaré voter une motion de censure, je la cite, si le pouvoir d'achat des Français est amputé par le budget. En effet, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé plusieurs hausses d'impôts. Les leaders du nouveau Front populaire ont quant à eux assuré dans une tribune commune publiée dans Le Monde qu'ils déposeront une motion de censure en cas de recours au 49-3. Un procès attendu s'est déroulé cette semaine, celui de Pierre Palmade. Pour rappel, en février 2023, il avait pris le volant sous stupéfiant et percuté une voiture, faisant 3 blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son fœtus. L'ancien humoriste est donc condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes pour blessures involontaires aggravées. Une actualité tourangelle maintenant, après un petit épisode de neige à Tours lié à la tempête Caetano qui touche la France, aujourd'hui c'est l'ouverture du premier marché de Noël Tourangeau, le village gourmand. Rendez-vous place Anatole France pour venir déguster des gourmandises de Noël, monter dans la grande roue ou patiner. Il faudra attendre encore une petite semaine pour l'illumination du sapin de Noël face à la mairie. L'événement aura lieu le samedi 30 novembre à 19h30, suivi d'autres festivités.
Merci Tomine Dupont pour ce résumé des informations de la semaine. On écoute maintenant le reportage de Victoire Renard de Winter sur les barrages du Cher.
Romain et ses collègues démontent le barrage en enlevant un à un les longs morceaux de bois plantés dans l'eau avec un objectif.
D'enlever toutes les aiguilles et de coucher la structure qui est une structure métallique au fond de l'eau pour pouvoir laisser libre cours à la rivière.
Car chaque année, de novembre à juin, le barrage est démonté pour préserver la vie dans la rivière, selon Natacha Monnier, directrice du syndicat du Nouvel Espace du Cher.
On abaisse les barrages pour qu'ils ne s'endommagent pas avec les troncs d'arbres qu'on pourrait avoir, avec les crues et éviter des dommages sur les ouvrages, mais aussi et surtout parce qu'on a des espèces piscicoles, les grands migrateurs, l'anguille, la lamproie marine et l'alose. Pour qu'elles assurent leur cycle de vie, elles ont besoin de circuler. Également, une rivière, ça vit, donc c'est très important de faire en sorte que les sédiments puissent circuler.
Autre utilité de ce barrage, maintenir l'activité touristique du Cher. En été, la rivière ne doit pas être à sec sous le château de Chenonceau, 12e lieu le plus visité en France. Pour Natacha Monnier, directrice du syndicat, les activités permettent de sensibiliser les touristes.
On pense vraiment que favoriser ces itinérances au bord de l'eau et sur l'eau vont permettre de mieux comprendre la rivière, de mieux l'appréhender et puis d'avoir envie de la préserver.
Bien que le barrage ne soit pas idéal pour l'écosystème de la rivière, les démonter l'hiver est un compromis entre les différents acteurs. Dans la vallée, le tourisme est la principale ressource de retombées économiques, selon l'établissement public Loire.
Un reportage signé Victoire Renard de Winter. On passe maintenant à la culture. Ce matin, on parle cinéma dans le studio avec Lucie Feuillolet. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Sorti le 6 novembre en salle et prix du meilleur scénario au Festival de Cannes, The Substance de Coralie Farget fait beaucoup couler de sang, mais aussi beaucoup d'encre. Derrière ce récit horrifique, c'est une véritable critique sociétale et féministe qui se cache. Lucie, de quoi s'agit-il plus exactement ?
Deuxième long métrage de la réalisatrice française, The Substance raconte le vieillissement du corps féminin et le poids du male gaze dans le cinéma hollywoodien. De l'horreur au féminin donc, et ce n'est pas pour nous déplaire. Ce film de pas moins de 2h20 plonge Demi Moore dans un tourbillon d'hémoglobine. L'actrice joue le rôle d'une ancienne star de la télé mise au placard. Pour retrouver sa jeunesse, elle décide alors de prendre un traitement mystérieux qui fait sortir de son corps un double jeune et sexy. Mais attention, des règles très précises sont à respecter, sinon des choses horribles se passent.
Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même ? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance.
The Substance, c'est finalement l'histoire d'une femme qui se déteste, qui déteste son corps, ce qu'elle est devenue. Mais elle ne se déteste pas à cause d'elle-même, mais bien à cause du regard de la société. The Substance est un film qui raconte ce que c'est que d'être une femme qui se scrute dans sa salle de bain pour en faire un film d'horreur. En nous plongeant dans une esthétique très années 80, Caroline Farga nous propose une rencontre entre le cinéma de genre et un féminisme contemporain. Elle truffe son film de référence au petit maître du gore pour dénoncer l'agisme subi par les actrices passées 50 ans. Le film se distingue très clairement par son traitement du son et de l'image, les gros plans et les bruits de bouche des personnages masculins les montrent de la manière la plus dégueulasse possible. Les corps féminins, eux, sont montrés sous tous les angles. Aucune partie n'échappe à la caméra, à tel point que le film frôle une pornographie de la perfection. Pourtant, les gros plans sur les lèvres glossées et les fesses rebondies n'ont pas pour vocation de sexualiser, mais bien de dénoncer ce que c'est que d'être vieille au temps du capitalisme numérique. Dans la tête de Caroline Farga, il se diffuse. Avec un montage frénétique, le film nous embarque sans nous laisser le temps de nous ennuyer. The Substance est en effet un film techno, voire rock par moments, avec un enchaînement épileptique de séances assez intense. Malgré les quelques faiblesses du film, Caroline Farga gagne son pari. The Substance reste très probablement le film le plus choquant de l'année 2024. Mais en même temps, n'y a-t-il rien de plus choquant qu'un film qui utilise nos propres complexes et les personnifie ?
The Substance, un film à retrouver dans vos salles obscures. Merci Lucie Feuillolet. Il est 7h51 sur Good Morning Tour. On revient dans quelques instants après une courte pause musicale. Tout de suite, on écoute Ensemble de Alyosha Schneider.
Ça suffit de s'attendre. je voudrais partir maintenant. Te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant. Te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.
Alyosha Schneider avec le titre Ensemble. Vous êtes toujours à l'écoute de Good Morning Tour au 99.5 FM. On passe maintenant à la chronique sport. Ce matin, Julian Schneider nous parle basket.
Vous êtes amateur de basket mais vous préférez dormir la nuit ? Pas de problème, cette chronique est faite pour vous. Voici les faits marquants cette semaine en NBA. 9, c'est le nombre de 3 points inscrits par Dalton Knecht dans la nuit de mercredi contre le Utah Jazz. Auteur d'un match à 37 points, son record en carrière, il permet à son équipe, les Lakers, de s'imposer 118 à 124 à Utah. Avec un ratio de 9 sur 12 à 3 points, il conclut cette rencontre avec un nouveau record personnel. Les Lakers, alors 3e de la Conférence Ouest, vont pouvoir compter durant toute la saison sur leur rookie qui dégaine plus vite que son ombre. Plutôt ironique pour un Dalton. Le MVP de la semaine est attribué à Giannis Antetokounmpo. L'ailier fort des Bucks a réalisé un match XXL la nuit dernière contre les Bulls. 41 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Cette performance se conclut sur la victoire de son équipe 106 à 122 à Chicago. Ça fait plaisir de voir le Greek Freak à ce niveau. Alors que son équipe connaît un début de saison très compliqué, le double MVP a repris en main la situation à Milwaukee. Le match qu'il ne fallait pas rater, c'était dans la nuit de mercredi. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas été aussi hypé pour un match dans la Conférence Est. Les Cleveland Cavaliers, alors invaincus avec une série de 15 victoires, recevaient Boston, les champions en titre. Un choc qui a tenu ses promesses. Au terme d'un match spectaculaire de Jason Tatum, les Celtics dominant tout le match se sont imposés 120 à 117. Les Cavaliers, menés par un Donovan Mitchell en feu, n'ont pas su revenir au score dans les derniers instants. Il faudra suivre de très près ces deux équipes qui sont de sérieux candidats à l'Est. Bon, en ce qui concerne le titre de champion NBA, c'est pas encore gagné, il y a quand même de gros prétendants à l'Ouest, mais on attend les playoffs avec impatience.
Et pour finir avec une touche de légèreté, voici les pronos du J.
Ah, ça c'est pour mes pronostiqueurs Betlic en herbe, prenez un stylo et ouvrez grand vos oreilles. Pour les matchs de cette nuit, les Pelicans reçoivent Golden State. Je vois une large victoire des Warriors en grande forme sur ce début de saison. Washington-Boston, là non plus, je prends pas trop de risques en mettant les Celtics gagnants avec un Jason Tatum très chaud en ce moment, comme on l'a dit. New York contre Utah, je mets les Knicks vainqueurs avec une large victoire. Les Jazz étant en grande difficulté sur ce début de saison, ça me paraît pas trop risqué. Et pour finir, Denver affrontera Dallas à domicile, un duel entre les deux joueurs qui m'impressionnent le plus en NBA, Luka Doncic pour les Mavs et Nikola Jokic à Denver. Je vois bien Dallas créer la surprise en allant chercher à l'extérieur une victoire sur le fil comme ils savent le faire. Bon, celui-là, j'avoue, c'est un peu le cœur qui parle, donc à prendre avec des pincettes. Voilà, c'est cadeau pour le reste des matchs, je garde mes pronos pour moi, faut quand même pas rigoler, et je vous dis à la prochaine.
Merci Julian Schneider, le rendez-vous est pris pour cette nuit en tout cas. Le temps passe ici sur Good Morning Tour, il est déjà 7h57 et Angelina, avons-nous tous la même vision de la temporalité ?
Le temps, c'est les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les années qui ne bougent pas. Jusqu'ici, on a tous le même rapport au temps. Si je vous donne rendez-vous chaque vendredi matin à 7h15 sur Radio Campus, c'est plutôt clair. D'ailleurs, on a même une horloge interne biologique, notamment avec l'horloge circadienne, qui définit notre sommeil en fonction notamment de la lumière du jour. Il y a des temps aussi très ancrés dans notre société. Entre 8h et 9h, c'est le temps d'aller au travail, 20h pour manger et ainsi de suite. D'ailleurs, il change en fonction des sociétés. Mais il existe une vision, disons, moins rationnelle de percevoir le temps. Hibert Tsao, chercheur avec ses collègues de l'Institut Calvi sur les neurosciences systémiques de l'Université norvégienne, ont découvert une horloge neuronale qui enregistre le temps pendant nos actions. Ce serait des signaux émis par notre cortex entorhinal, qui est la région du cerveau responsable de l'enregistrement des événements dans le temps. Il enverrait ensuite ces signaux dans l'hippocampe d'à côté, où les souvenirs sont stockés. Or, si nous faisons la même chose encore et encore, comment se rendre au travail, ces signaux sont si semblables qu'ils s'estompent et deviennent difficiles à séparer, nous donnant l'impression que le temps passe lentement. C'est déjà une première piste d'explication sur pourquoi nos journées de travail nous paraissent plus longues qu'aller voir une nouvelle exposition aux Beaux-Arts à Tours pour finir par un petit café. Finalement, la temporalité est donc très subjective, ou du moins son ressenti.
Et c'est le philosophe Bergson qui propose d'utiliser un nouveau mot pour nommer cet écoulement personnel du temps.
Oui, il propose le mot « durée ». Quand on est en bonne compagnie, on a toujours tendance à dire que le temps passe vite. Par exemple, ce matin, à Radio Campus, je suis entourée, bien entourée. J'ai l'impression que cela fait... Je n'ai pas l'impression que cela fait une heure qu'on est déjà ensemble. Je pense que quand on est avec des gens qu'on aime, on réfléchit moins. Et donc, on se laisse porter par le temps, là où des fois, on peut le subir. Il y a le temps qui passe. On ne parle plus de secondes, mais de temps. Celui qui permet d'oublier et de réparer. Il y a des amitiés qui sont cassées où je n'aurais jamais cru m'en remettre. Et pourtant, puisque le temps passe, on ne peut pas se souvenir de tout. Notre cerveau fait un tri afin d'éviter la surcharge. Ce dernier opère quotidiennement une forme de grand nettoyage nocturne qui a lieu pendant notre sommeil. On dit souvent que le temps guérit. Ça peut arriver car notre cerveau va éviter de garder les mauvaises choses du quotidien. Pourtant, le temps passe, mais que faisons-nous des traumatismes qui restent, persistent, s'accrochent malgré tout?
Ce temps, d'ailleurs, l'utilise-t-on à bon escient?
Nous remplissons nos agendas, pressés de tout vivre, mais souvent, le temps nous échappe. Je me couche tout le temps en me disant que je n'ai pas fait ce que je voulais, et qu'il me reste encore les parcelles à réviser, la chronique d'économie à finir et le mémoire à écrire. Du temps aussi, on aimerait en avoir plus, pour le passer auprès de nos proches. Mais est-ce qu'on a tous le temps? Personnellement, j'aime passer du temps dans une salle de cinéma, mais peut-être que d'autres, eh ben, pour eux, c'est du temps perdu. Certains, du temps ne l'ont plus, partis bien trop tôt.
Alors Angelina, quel ressenti pour cette chronique?
Je dirais 2 minutes, mais ressenti 30 secondes pour moi.
Ouais, ça fait déjà bien 2 minutes que tu nous parles. Et puisque nous sommes déjà pris par le temps, Good Morning Tour, c'est fini. Je remercie toute l'équipe du jour, Tomine Dupont pour ses flashs d'informations, Jules Frécon pour sa revue de presse, Alia Travelsi, Colin Dobroniak-Cohen, Lucie Feuillolet et Julianne Schneider pour leur chronique, Angelina pour son magnifique billet d'humeur sur le temps, Victoire Renard de Winter pour son reportage. Merci aussi à Gabriel d'avoir réalisé un reportage et d'avoir assuré à la technique ce matin. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle matinale, toujours sur 99.5 FM. Prenez soin de vous, agréable journée à toutes et à tous.